Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, je veux parler aussi en français pour réduire un peu le temps avec les traductions et pour que tout le monde comprenne. C'est un dimanche où l'homélie, c'est très difficile à faire. Pourquoi? Parce que si vous avez regardé le calendrier, c'est marqué que c'est le dimanche où on fête les pères qui ont participé au 4e concile œcuménique qui a eu lieu en 5e siècle, plus précis en 451, au Chalcédone. Vous savez que dans l'Église orthodoxe, on garde les enseignements qu'on a reçus des 7 conciles œcuméniques. Le premier qui a eu lieu à Nicée, en 4e siècle, jusqu'au dernier concile œcuménique qui a eu lieu aussi à Nicée, en 8e siècle. Aujourd'hui, ce dimanche, on fête les pères qui ont participé au 4e synode concile œcuménique. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une homélie assez difficile? Parce que, vous savez, tous les conciles ont été rassemblés pour donner une vraie vision sur des choses dogmatiques. Et j'insisterai un peu sur c'est quoi un dogme. Parfois, quand on entend le mot, la parole dogme, on a un peu une réaction de comme ça, parce qu'on croit que la dogme, c'est une chose qui nous fait comme sens, nous borne un peu. Je dirais que ce n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans l'Église, on dit qu'il y a la tradition, la sainte tradition. Et aussi, quand on entend tradition, on a peut-être aussi une réaction de comme ça, parce que quand on entend dogme et tradition, on dit qu'il y a des choses figées, des choses claires, qu'on ne peut pas toucher. Mais je dirais que aussi la tradition et aussi la dogme, il y a des choses qui se développent dans un mouvement d'une assemblée. Par exemple, il n'y a pas un seul homme qui dit « À partir d'aujourd'hui, je vous ai dit, il faut tenir cette dogme. » C'est obligatoire pour tous de tenir un dogme. Ce n'est pas comme ça. Un dogme, la tradition en soi-même, c'est une chose qui se développe, qui pousse, qui vient, qui sort, si vous voulez, d'une expérience de l'Église. Par exemple, l'office de mariage. Vous savez que dans les premiers 2, 3, 4 siècles, on n'avait pas un office proprement dit de mariage. Les jeunes venaient au prêtre, le prêtre bénissait leur union, et c'était comme ça. Mais petit à petit, s'est développé une sorte d'office qui n'était pas imposé de quelqu'un, qui s'est développé de soi-même. Et aujourd'hui, on a l'office, par exemple, de mariage. Et essayez-vous de faire le mariage sans faire l'office de mariage. Quelque chose nous manque. Essayez-vous de vivre ensemble sans l'office de mariage. Quelque chose manque. Pourquoi? Parce que c'est une tradition qui s'est développée et qui est fondée sur une expérience. Expérience de prêtres, de fidèles ensemble. Et ça a donné quelque chose. Ça, c'est un exemple. Aussi, à partir de cet exemple, vous pouvez vous pouvez vous rendre compte, c'est quoi un dogme? On a la Bible, par exemple, et beaucoup de gens, ils disent, on a la Bible et ça suffit. On a besoin de rien de plus, parce que la Bible nous donne tout. C'est vrai que la Bible nous donne tout, mais la Bible, ce n'est pas une, comme je peux dire, un traité à manuscrite, détaillé. On a besoin de clarification, si vous voulez. Par exemple, et je reviens à la dimanche d'aujourd'hui, la dimanche de Concile 4 œcuménique. On parle de personne de Christ. Les pères se sont rassemblés pour résoudre quelque chose qui ont apparu dans le 5e siècle, quelque chose un peu étrange qui se sont apparus et qui parlent de personne de Christ. Par exemple, le Bible, vous avez entendu l'Évangile, le Bible nous dit que le Christ, c'est Dieu, c'est le vrai Dieu. Mais il faut préciser très bien cette chose, parce que sinon, il y a la possibilité, le risque de tomber dans des extrêmes. Par exemple, on peut dire que Jésus, il a été un simple homme, qui a fait bien sûr des choses magnifiques, mais un simple homme, c'est une extrême. Un autre extrême, c'est que Jésus a été que Dieu qui est venu sur terre sans prendre un corps humain, sans prendre chair. Et c'est un autre risque. On entre un peu dans des choses dogmatiques un peu pas très faciles à comprendre, mais il faut essayer un peu de comprendre pourquoi on dit que notre Seigneur Jésus-Christ, il est vrai Dieu et vrai homme. Pourquoi on dit ça? On peut dire très simplement, Jésus, il est. Quoi? Ça ne nous intéresse pas. C'est quelque chose en qui on croit. Mais il faut savoir très bien en qui on croit. C'est vrai Dieu et vrai homme. Et le Concile 4 œcuménique a précisé cette chose. Que Jésus-Christ, il est vrai Dieu et vrai homme. Pourquoi? Parce qu'il y a, eu des gens qui ont commencé à dire que Jésus, c'est une sorte de Dieu qui est venu sur la terre et qui n'avait rien à faire avec notre nature humaine. Et les pères de synode du Concile 4 œcuménique ont précisé que Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, quand il est venu sur terre, il a pris chair. Pourquoi? Pour pouvoir soulager d'intérieur notre nature humaine déchue, tombée. Ce n'est pas possible de guérir quelque chose si tu n'assumes pas. Pour ça, Dieu a pris chair. Il s'est fait homme comme nous, comme chacun d'entre nous. Il s'est fait homme pour avoir la possibilité de l'intérieur de guérir notre nature humaine tombée, déchue. Et les pères du synode, de 4e synode concile œcuménique ont précisé ça. On dit tous dans nos credos, vrai Dieu de vrai Dieu, qui a pris chair de la Vierge Marie et de l'Esprit Saint. Pourquoi on dit ça? On ne dit pas comme ça. On dit parce qu'on a la conscience que Dieu est venu et il s'est fait, je répète ça, homme comme nous, pour nous donner la possibilité de goûter la vraie vie. Parce que s'il reste en pierre, en quelque chose impersonnel, je ne sais pas où, dans les cieux, notre relation avec lui, c'est juridique, c'est une chose de ennuyante, si vous voulez. C'est une chose où, bon, c'est Dieu qui fait tout au lieu de nous et il faut se prosterner devant Dieu parce qu'il faut. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut savoir que Dieu est venu très proche de nous Il s'est fait homme, il a souffert toutes les passions qu'on, chacun d'entre nous souffre. La faim, la soif, la douleur, le froid, la chaleur. Il a mangé, il a eu des besoins physiques. Toutes ces passions qu'on a, chacun d'entre nous, sauf le péché, bien sûr. Et comme ça, le vrai Dieu, il peut, en entrant dans notre nature humaine, il peut voir c'est comment la situation d'être homme. Parce que, vous savez tous, c'est difficile de vivre. Et Dieu, il a voulu voir ça. Il s'est fait homme pour voir ça et pour guérir notre nature humaine, je répète, de l'intérieur. Il y a un autre risque. Le risque de ceux qui disent toujours que Jésus, il a été un homme, un simple homme. Je répète, un homme qui a fait beaucoup de choses merveilleuses. Mais ça, c'est tout. Et je reviens sur le problème du salut de chacun d'entre nous. Si Jésus, il était un simple homme, c'est où la grâce, c'est où la déification que Dieu nous propose, par qui? Par la communion avec ses saints mystères, par toutes les choses que l'Église nous propose. S'il était un simple homme, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, peut-être dans un jour, vous pourriez arriver dans une mesure peut-être plus que Jésus. C'est possible ça. Mais non, la réalité c'est que Jésus il a été pas un simple homme, comme Bouddha, comme Confucius, comme Socrate et comme Platon. On peut très, très facile niveler, si on dit que Jésus il a été un simple homme, on peut dire, bon, il est passé, il a fait une sorte de religion, c'est le christianisme, bon, c'est comparable avec d'autres choses. Non. Si on considère que Jésus, il a été un simple fondateur d'une religion, c'est très faux. Notre foi, c'est très faux. Parce que on élimine la possibilité et la capacité d'homme d'avoir un accès direct au Dieu. Et comment c'est possible cet accès direct au Dieu? Par le fait que le Dieu s'est fait homme. Qu'on a cette point de, si vous voulez, de contact. Le Dieu, il est venu, s'est fait homme, il connaît notre situation. Nous, on a le courage d'avoir cette relation en homme qui, dans le même temps, est Dieu, est vrai Dieu. Je m'arrête ici parce que il y a des choses qui sont un peu difficiles, mais je vous conseille d'essayer un peu de pénétrer dans ces choses parce que c'est notre foi, mais c'est pas que ça. C'est un enjeu ici. Il faut savoir en qui on croit parce que ça peut nous aider beaucoup dans notre vie spirituelle. Je ne crois pas dans une sorte de spiritualité qui est fondée que sur la spiritualité et qui n'a pas des informations comme fondament. Il faut avoir des informations, il faut savoir où, vers qui, dans quelle direction est-ce qu'on a notre capacité de prier, d'avoir une relation avec Dieu. C'est possible cette relation avec Dieu ou c'est un conte de feu que le prêtre dit chaque dimanche je ne sais pas pourquoi. C'est possible ou pas cette relation avec Dieu? Et en pénétrant ces choses, en entrant petit à petit, c'est pas possible de comprendre tout d'un coup, le mystère de Dieu. On ne pourra jamais comprendre le mystère de Dieu. Mais petit à petit, je crois que notre vision sur notre relation avec Dieu pourra être un peu plus fondamentale, si vous voulez. Tout ça, je voudrais vous lire deux, trois fragments qu'on a chantés aux Vêpres. Verbe inexplicable et incirconscrit, qui pour nous t'est fait cher, a mis des hommes, la sainte assemblée des sages pères qui ont participé au quatrième concile, a proclamé la perfection de ta divinité et de ton humanité. Et je vous prie de retenir ça, la perfection de la divinité et de l'humanité de Jésus-Christ. L'unité de ta personne en deux natures, énergie et volonté. C'est pourquoi te reconnaissant comme Dieu avec le Père et l'Esprit. Seigneur unique, nous t'adorons avec foi et le Père Saint, nous le disons bienheureux. Ensemble, vous avez abattu les doctrines. Et ici, on a quelques exemples de gens qui ont un peu dévié. De Serge, de Pyrrhus, d'Honorius, d'Eutychius, d'Oscor. Vous avez combattu ça en proclamant les deux natures et l'unique personne du Christ, comme le démontrent les seules énergies. Et nous, fidèles, nous prosternons devant celui qui est homme et Dieu à la perfection. Et devant le Père et l'Esprit, nous vous glorifions, illustre Père, en ce jour. Je voudrais finir par une parole de l'Évangile d'aujourd'hui, qui m'est venue comme ça un peu, cette réflexion. Vous avez entendu on a eu aujourd'hui deux évangiles. La première selon saint Matthieu et la deuxième selon saint Jean. Et dans la première évangile, à la fin, c'est une phrase. Après que Jésus il a guéri celui qui était paralytique. À cette vue, les foules furent saisies d'admiration et rendirent gloire à Dieu. Jusqu'à ici, c'est très bon. Mais un peu plus loin. Et rendir gloire à Dieu d'avoir donné aux hommes un semblable pouvoir. Et voici ici le risque. Parce que les foules, ils ont vu la guérison, le miracle que Jésus a fait, mais ils restent dans la vision horizontal. Ils rendent gloire à Dieu parce que Dieu a donné à ce Jésus, qui est un simple homme, un semblable pouvoir. Et voilà le risque de rester et de voir un Jésus, celui qui a guéri des gens, qui a fait des choses merveilleuses, et de rendre grâce à Dieu que Dieu a donné à ce Jésus le bon homme. En ce pouvoir. C'est faux, parce qu'il faut passer un peu plus. Il faut passer à la deuxième évangile, où l'évangile dit très clair tout ce qui est à moi et à toi, dit Jésus, vers le Père. Et ce qui est à toi et à moi. Tout ce qui est à moi et à toi, et ce qui est à toi et à moi. C'est une preuve, si vous voulez, de la divinité de Jésus. Je m'arrête ici. Peut-être avec cette homilie un peu trop dogmatique, mais c'est bien de croire que Jésus est Dieu. C'est ça. Il faut parfois, par notre foi, il faut pénétrer dans le mystère. Et après, petit à petit, on verra. On verra pourquoi dans l'Eucharistie, on dit tous, je crois Seigneur et je confesse que tu es que tu es Dieu vivant. À qui on dit ça? À qui? On croit que la pain et le vin qu'on a sur la sainte table deviennent, dans une façon qu'on ne peut pas exprimer, qu'on ne peut pas expliquer, devient le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais attention, il devient le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le corps qu'il a eu après la résurrection. Après la résurrection, c'est son corps qui a été ressuscité des morts. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne la possibilité d'apprendre ces choses. Et encore un conseil. Imaginez-vous qu'au 5e siècle, les gens discutaient des choses comme ça. Pour moi, c'est un peu... On dit parfois le Moyen-Âge. Les gens du Moyen-Âge qui ne savaient rien et bon, qui, comme ça. Mais imaginez-vous qu'au 5e, au 4e, au 5e, 6e siècle, les gens, ils avaient la capacité linguistique, la capacité philosophique, si vous voulez, et en plus, la capacité de prière, de pénétrer dans des choses comme ça. Et on a reçu les choses en tradition. Et je reviens à ce que je disais au début de mon homélie. C'est ça la tradition. C'est une expérience. Quand on sent que Dieu est vrai Dieu, que Jésus est vrai Jésus, on ne sent pas la dogme de Chalcédoine, de Concile 4 œcuménique, comme une dogme qui vient et qui nous est imposée. Non, on sent cette dogme comme une chose qui nous donne la liberté de prière, la liberté d'actionner, la liberté d'avoir une relation comme il faut avec Dieu. Parce qu'il précise cette dogme, elle précise quelque chose. Il nous donne des indications. Il nous donne des indications. On ne peut pas croire n'importe comment. Il nous donne des indications. C'est comme un fleuve, si vous voulez, comme un rivier. Il coule toujours, mais il coule dans des limites. Mais dans ces limites, c'est une beauté. Un fleuve, c'est une beauté. Mais si le fleuve, il sera partout, il est plus beauté, parce qu'il va faire des inondations et ça. Mais il a besoin de limites. Et dans ces limites, c'est la beauté et la richesse d'un fleuve. Et la dogme, c'est la même chose. Il a des limites, mais des limites qui nous donnent la possibilité de goûter la richesse et la beauté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.